gli assai d'un gusta. E tu a giù mon anjou. Rouille et slam, j'en inquiète. Sur la tua spalla che mescla. Carnes et pregailles et mesclades. Pet d'anjou, pet d'irandieu.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui encore, on va aborder divers facettes de la problématique de la psychiatrie à travers des articles de presse. Et aussi des annonces, une annonce de film et l'annonce d'événements à venir. Alors, pour commencer, on peut continuer à rendre compte hein, de la situation du service public de la psychiatrie à travers des articles comme celui de France 3 Région du 2 avril 2024 intitulé « Faute de médecins, une vingtaine de lits fermés à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, ce n'est que le début », entre guillemets. Le CHS d'Auxerre fait face à un manque de personnel important. Donc c'est France 3 Région, France TV Info. La direction du CHS d'Auxerre a fermé temporairement plus d'une dizaine de lits au sein de l'établissement, en cause un manque de médecins et d'internes. Des représentants du personnel craignent que le provisoire se transforme en définitif. Un mouvement de grève est prévu ce mardi 2 avril. C'est un coup dur pour le CHS d'Auxerre. Une unité de 23 lits est fermée pour une dizaine de jours. Une situation temporaire, mais qui inquiète les représentants du personnel de l'hôpital psychiatrique. Pour nous, ce n'est que le début. La fermeture de 23 lits, c'est un tiers des chambres, c'est beaucoup, estime Patrice Pierre, secrétaire du CSE, représentant pour l'intersyndicale du CHS 89. En temps normal, le site peut accueillir plus d'une centaine de patients atteints de troubles psychiatriques. Mais faute de médecins, une unité doit fermer jusqu'au 3 avril. Pour pallier ces fermetures, une équipe d'appui psychiatrique sera déployée. Des infirmiers vont se déplacer au domicile des patients. Cela promet un avenir difficile pour le personnel, annonce Patrick Pierre. On a déjà des difficultés de recrutement de médecins, mais ça devient compliqué. Les médecins sont vieillissants au sein du CHS. On a un manque d'internes, on a un manque de tout. La direction explique ne pas avoir le choix face à la pénurie médicale. En 2 ans, l'hôpital a perdu 8 médecins psychiatres et il fonctionne avec 2 internes au lieu des 8 nécessaires. Patrice Pierre demande à l'ARS de venir à l'aide à l'établissement. La direction cherche des solutions, mais sans médecins, il n'y a pas d'hôpital. C'est pour ça que nous alertons les pouvoirs publics. Sans médecins, c'est la fermeture de l'offre de soins pour tout le département. On peut augmenter l'attractivité, demander à l'ARS qu'ils nous fournissent des internes qui peuvent peut-être s'y plaire et s'y installer. Ça part de là. Le personnel, de son côté, craint que le provisoire ne devienne définitif et qu'à terme, les emplois soient directement menacés. Au final, selon eux, c'est l'offre de soins en psychiatrie et les patients qui en souffrent les premiers. Un mouvement de grève est prévu mardi 2 avril. Bon, alors voilà, c'est une... un article du 2 avril, justement. Donc, ça se termine là, sur le plan de la chronologie. Un autre article du même acabit, du 5 avril 2024. Donc là, c'est de France Info TV encore. Malade psychiatrique, maltraitance aux urgences. France Télévisions. Des patients attachés plusieurs jours sur leur lit quand d'autres dorment sur de simples brancards. Des scènes devenues quotidiennes aux urgences où des malades psychiatriques attendent parfois plusieurs semaines qu'une place se libère dans un établissement adapté. De plus en plus de soignants dénoncent eux-mêmes des situations de maltraitance. L'enquête commence au centre hospitalier du Mans. Nous entrons dans un secteur où vivent de jour comme de nuit plusieurs dizaines de malades souffrant de troubles mentaux sévères. Certains sont là depuis 9 jours faute de place en hôpital psychiatrique. D'autres ont passé jusqu'à 3 semaines au sein des urgences, mélangés aux autres patients, dans la plus grande promiscuité. Des malades souvent agités, parfois dangereux pour eux-mêmes ou pour les soignants, et qui doivent être attachés. Dans une des chambres, une patiente que nous rencontrons vient tout juste d'être libérée de sa contention. « J'avais les jambes attachées et j'ai attrapé une escarre cette nuit », une patiente anonyme. Toujours aux urgences, plusieurs soignants attachent un homme en proie à des crises délirantes et violentes. Au moins 5 infirmiers et aides-soignantes sont autour de lui pour lui fixer les bras, les jambes et le bassin à l'aide de contentions attachées au lit. Dans cet hôpital, il y a jusqu'à 5 mises en contention par jour. Parfois, certains patients restent attachés plusieurs jours. une maltraitance institutionnelle, entre guillemets. Les soignants que nous avons rencontrés reconnaissent que la contention est parfois maintenue de façon injustifiée. Ils y ont recours, disent-ils, faute de locaux adaptés et de personnel formé. Alors un soignant qui témoigne. Parfois les malades font leurs besoins sur eux, c'est indigne, alors que s'ils étaient en psychiatrie, ils ne seraient pas attachés. C'est ça qui est difficile et ce n'est plus exceptionnel, ça devient notre quotidien. En 2022, en France, parmi les 76 000 personnes hospitalisées sans consentement, 37% ont été placées à l'isolement et plus de 11% ont été contentionnées. Le pays se situe dans la fourchette haute des pays qui utilisent le plus ces méthodes coercitives. Des risques pour les patients. Depuis plus d'un mois, le personnel de l'hôpital du Mans en grève manifeste chaque semaine pour dénoncer cette situation. De l'aveu même du chef des urgences, attacher un patient n'est pas sans conséquence. Il y a des risques d'escarres, d'embolies pulmonaires, de phlébites, et on se retrouve à leur donner des médicaments pour prévenir des complications liées à ces traitements qu'on ne devrait pas maintenir aussi longtemps. C'est là où ça devient délirant. Cette phrase est du docteur Lionel Imsaad, chef de service des urgences du centre hospitalier du Mans, dans la Sarthe. La direction de l'hôpital du Mans promet des dispositifs d'alerte pour la sécurité des soignants, des formations sur la prise en charge de la maladie mentale, ainsi qu'une sécurisation des locaux. Des mesures pour faire face à la crise, en attendant l'ouverture de places dans le seul hôpital psychiatrique de la Sarthe. L'établissement public de santé mentale d'Allonne a perdu 180 lits en 8 ans et peine à recruter. 29 postes de psychiatres sont toujours vacants. Résultat, faute de place, des malades dangereux pour eux-mêmes et pour autrui sont sans solution. Une mère que nous avons rencontrée affirme vivre dans la peur. Son fils violent n'a aucun suivi psychiatrique. À chaque fois, l'hôpital le laisse sortir. Pourtant, quand il est en crise, il s'en prend à nous. Coup de poing, menace avec un couteau, tentative de strangulation. Qui dit qu'un jour il n'y arrivera pas à ce geste ? Une mère anonyme. À Toulouse, faute de soins adaptés, l'hôpital Purpan n'a pu éviter, il y a quelques semaines, le suicide d'un patient de 48 ans. Admis aux urgences pour des troubles mentaux, l'homme avait passé 10 jours dans un bureau de consultation qui n'est pas censé accueillir un malade. Pendant 10 jours, il était dans un box de consultation sur un brancard sans sanitaire. Il n'a pas supporté. C'est quelqu'un qui aurait pu être aidé. Ce suicide était évitable. Julien Terrier, secrétaire CGT du CHU de Toulouse. La direction de l'hôpital assure aujourd'hui que ces box n'accueilleront plus de malades psychiatriques. Lors de sa venue à Toulouse, le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, a annoncé 15 lits supplémentaires en psychiatrie et le recours au privé pour désengorger les urgences. Au niveau national, plus de 3 milliards d'euros pour la santé mentale ont été débloqués pour répondre aux besoins croissants des malades. Fin de cet article. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, pour l'instant, nous allons faire une pause avec une chanson qui a assez peu à voir avec la psychiatrie, il faut le dire, mais nous sommes en 2024 et c'est les 30 ans du génocide du Rwanda et cette commémoration qui est faite, enfin cette non-commémoration qui a été faite par la France, eh bien il y a aussi une chanson de Serna, on l'écoute.
Il marche, comme il peut, il marche sur la ligne de front. Il chemine du pas esselé des Soudard sans solde, soldat perdu de ses 100 grades. Que le raffut des combats a rendu sourd à eux-mêmes. Ce 20 automne déjà meurtri, à l'heure d'aimer tout lui répugne. Sa naïveté obscène, sa tardive amertume. C'est l'arrière-goût d'une sale victoire, il le sait trop. Alors tant pis, il fredonne. Comme il peut fredonne l'air des insoumis. Le chant sinistre des renégats, la complainte des parjures, des déserteurs, du champ d'honneur. Il a renoncé à la gloire des sales besognes, rien les cœurs plus que l'odeur en tétant de la suie et du sang. Qui le suit ou qu'il aille, qu'il enivre tant. Il trimballe son dégoût de la frénésie du massacre. Il le sait bien, c'est un peu tard, il s'approche. Comme il peut s'approche de la ligne de démarcation qui sépare conquérant et conquis. Frontière tracée à la règle entre combattant et civil. Entre ce qu'il fut et ce qu'il est, il a bien tenté de le soigner à l'autre vie. Son corps chétif rendu robuste par l'humiliation, le mépris. Dans les vapeurs de l'alcool, il a cherché une mort digne. Il n'a pas su, il avait sa honte. C'est impossible. Comme il peut, il cherche le lieu où tout bascule, où quelque chose s'est éteint, où la douleur a laissé place à la fureur pour toujours. Maudite colline qui reconnaîtrait d'entre toutes, puis c'est zéro, elle le poursuit dans son sommeil et dans sa veille, quand il est à compter les heures, attendre l'aube pour marcher encore et encore en sentinelle de l'absurde. Mais à rien seul, il gueule. Comme il peut, il gueule, lâche ce cri étouffé. Vomit les razzias, les aveux sous la torture. Il pleure la folie, assassine le prestige tortionnaire des siens qui sont venus dompter l'Afrique. Il connaît bien l'issue de sa course, sa mutinerie arrive à terme. Mais d'ici là, les scènes fixées sur sa rétine ne lui laisseront pas un répit, pas de repos. Et c'est tant mieux, il arrive. C'est qu'enfin il arrive là où l'histoire s'achève. Fusillade au coup de machette, là d'où vient sa gamberge, gangrène des champs de bataille. Où il croisa enfin l'ennemi, gamin au veillard, tout si dernier rescapé des tueries à leur trousse. Les militaires et miliciens, formés, encadrés sous la bannière bleu, blanc, rouge, jusqu'à la solution finale. Ouais, jusqu'au bout, Rwanda. Puis c'est zéro, fin du périple, le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir, juste en finir. Rwanda, c'est zéro, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, mais c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir, juste en finir. Rwanda, mais c'est zéro, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné. Traqué jusqu'au dernier. Rwanda, puis c'est zéro, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir, juste en finir.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient d'entendre Serna, une chanson dont le titre est Bicicero, Rwanda 94. Et alors, on continue avec la psychiatrie et avec un film qui sort, qui va sortir à partir du 1er mai sur les écrans, et qui est encore Alors, on va parler de ce film qui est encore sur. On peut regarder encore sur arte.tv. Le titre du film, c'est État limite. Alors, État limite, c'est un film de Nicolas Peduzzi qui est donc. Qui a filmé le psychiatre Jamal Abdelkader à l'hôpital public Beaujon de la PHP Clichy. Donc c'est Jamal Abdelkader, c'est un psychiatre mobile secondé par des externes. C'est une psychiatrie dite de liaison, c'est un psychiatre dite de liaison, c'est-à-dire dans un secteur psychiatrique, dans un hôpital général. Voilà. Pourquoi on vous parle de ça? Bon, bah c'est parce que c'est le parcours, donc le parcours d'un homme en blouse blanche. Hein, il revêt toujours sa blouse blanche et il essaie de pratiquer sa profession sous l'angle de la relation. C'est-à-dire qu'il essaie d'abord d'abord de la relation avant toute chose, mais effectivement, il n'a à sa disposition que les outils que l'institution lui propose, c'est-à-dire tous ces moyens coercitifs finalement qui sont les seuls à sa disposition. Donc voilà, c'est un peu. C'est un peu cette contradiction, cette situation contradictoire que rencontre ce médecin et qui est filmé donc par ce réalisateur. Et on voit à travers ce film aussi comment l'institution psychiatrique quelque part, c'est un peu dit dans le film, se fiche pas mal de ce que le personnel dépasse largement leurs horaires de travail, ont des journées d'une longueur non mesurée, en fait. Ce qui leur permet de ne pas améliorer la situation, voyant que ces personnes s'adaptent apparemment à cette tension permanente. Alors, pour lire un commentaire sur ce film. Voilà, je lis un commentaire, je pense que c'est celui d'Arte, arte.tv. État limite. Tourné dans le sillage du jeune psychiatre mobile de l'hôpital Beaujon à Clichy, aux Deux-Seine, ce documentaire sensible sonde le délabrement de notre système de santé et l'épuisement de celles et ceux qui le portent au quotidien. Il est seul pour tout l'établissement. Basket au pied, le docteur Jamal Abdelkader, secondé par des internes, court chaque jour entre les différents services, des urgences à la réanimation, en passant par la gastro-entérologie et la gynécologie obstétrique. Porté par ses convictions, ce fils de médecin syrien établi en France, qui a grandi au sein de l'hôpital public où il vivait avec ses parents, s'efforce, au prix d'une incessante bataille contre le temps et les impératifs de rendement, d'apaiser les souffrances de ses patients en créant les conditions d'un véritable échange, y compris avec leurs proches. Il y a là Aliénor, percuté par un train et multi-amputé, Vincent, en proie à des phobies d'impulsion qui redoute les fenêtres ouvertes, Wendy, un jeune patient atteint de pancréatite, éprouvé par la solitude et d'intenses douleurs physiques, ou encore cet homme égaré dans une matrix qu'il faudra se résoudre à attacher après de vaines tentatives de dialogue. À la nuit tombée, dans leur rare moment de répit, le trentenaire et son collègue Romain, aide-soignant, se retrouvent pour partager leurs difficultés et constater les ravages grandissants de la crise qui ronge le système hospitalier. « Est-ce que je ne suis pas complice d'un truc qui est fou ?» s'interroge Jamal. Dans les pas de plus en plus las de ce jeune praticien à l'intelligence et à l'humanité en alerte, la caméra de Nicolas Peduzzi pénètre avec pudeur dans les chambres de l'hôpital, refuge de destins accidentés, pour observer l'émouvante construction d'une relation thérapeutique fondée sur le lien, en tête à tête et atelier de théâtre. Mais comment soigner dans une institution malade ? Alors là, on retrouve la fameuse métaphore médicale. Émaillé de photographies en noir et blanc de Pénélope Chauvelot, sublime parenthèse d'immobilité au cœur de l'urgence, ce documentaire mélancolique et politique sonde le déclassement de la médecine psychiatrique et l'effondrement de l'hôpital public, miroir d'une société qui relègue les plus fragiles à la marge et pousse ceux qui prennent soin d'eux au-delà de leurs limites. Donc je vous propose qu'on écoute quelques extraits de ce film « État limite ». Pour quelques phrases. Voilà. Si possible. Alors, il faut que je trouve le bon curseur.
Le problème, c'est que moi, je lutte contre une logique où on peut pas quantifier ce que je fais. Et comme on est dans une logique à vouloir quantifier tout, bah, ça dévalorise ce que je fais. Parce que la relation, enfin, moi, je fais de la relation. Concrètement, c'est de la relation. C'est de bâtir des relations de confiance, des relations de soins. Mais ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et si je t'opère de la cataracte, ça dure 15 minutes, la cataracte. Mais moi, ce que je fais, c'est pas prévisible. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de construire un lien et d'apaiser une personne, de rencontrer sa famille et de l'apaiser, de lire son dossier. Des fois, ça me prend une heure. Donc en fait, le problème, c'est que quand c'est les choses, comme les choses sont réfléchies comme ça, on se dit, bah en fait, pourquoi on va payer deux psychiatres ou trois psychiatres pour voir deux personnes? En principe, il n'a pas besoin de prendre autant de temps, tu vois.
Mais en fait, quand le problème, c'est quand tu veux en environnement urbain comme ça. C'est ça que moi je disais à cette dame, oui, on n'est pas obligé de vous donner des médicaments, ça dépend qui vous entoure. Tu peux avoir l'idiot du village quand t'es dans un endroit de dimension où la personne va pouvoir avoir de la sollicitude pour elle, prêter une attention telle que... Mais dans une cité urbaine, et d'ailleurs, le fait de vivre en environnement urbain, c'est un facteur de risque de développer des maladies psychiatriques. C'est un facteur de risque psychiatrique. D'accord. Donc, l'environnement urbain, qui est un environnement réfléchi, rationalisé pour être, pour permettre à des populations d'être productives, tout simplement en fait, bah, elle exclut le fou parce qu'il n'est pas productif, il sert à rien, produit rien, et puis il y a un coût en plus, hein, ça coûte cher. Et donc c'est vrai que, on le met dans une institution où on prétend entre guillemets le soigner. Moi, je suis pas du tout contre le médicament ou contre la neurologie ou la science. Ah, c'est pas ça la question. C'est que à côté de la question, oui, c'est ça. Moi, ce que j'interroge, c'est plutôt la dimension un peu arbitraire de l'exclusion, quoi. Et puis surtout le peu, malheureusement, dans notre société, ce qui est un peu dommage, c'est le peu de moyens mis dans les soins de réhabilitation psychosociale. C'est-à-dire, c'est pas tellement le moment quand ils sont à l'hôpital, c'est pas très grave. C'est en dehors de l'hôpital. C'est comment on est inclus, comment on peut être inclusif à l'extérieur.
Peut-être qu'on les en charge, parce que ça prend en charge.
On peut le voir dans le scénario, c'est pas...
Monsieur Bois.
Parce que là, il veut partir, il va fuguer.
Mais le traitement qu'il a pris, ça n'a pas eu d'effet, là?
Bah non, parce que là, il ne veut pas aller dans le coucher bleu et il ne veut pas se déshabiller.
Bon, alors je vais essayer de le convaincre, de lui redonner quelque chose qui l'apaise. Peut-être on va lui redonner 50 mg de loxapine.
Je vais
voir. Alors, juge, je m'excuse, mais mes collègues urgentistes commencent à s'impatienter un petit peu et ils veulent vous attacher.
Mais sans malade, il n'y a personne qui m'attache, il n'y a personne qui ne fait rien.
Voilà, juste, moi je vous dis juste, j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure que...
Non, je suis libre de mon corps, on n'a pas à m'attacher ou me faire quoi que ce soit. Je fais de mal à personne, si ce n'est qu'à moi, ça me regarde.
D'accord.
Non, il n'en est pas question.
D'accord.
Voilà, deux extraits de « État limite » de Nicolas Peduzzi. Et on enchaîne peut-être avec je sais pas si on peut appeler ça un manifeste. C'est la psychiatrie à bras le corps par les aboyeurs de voix, si possible. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un article du club de Mediapart. Donc, qui n'est pas la rédaction de Mediapart, bien sûr. Et donc, signé Les Aboyeurs de Voix. La psychiatrie à bras le corps. Nous y sommes à chaque instant, du jour ou de la nuit. Nous tentons d'apaiser les angoisses des aurores et de dissiper les démons des crépuscules. Nous ne pouvons plus entendre parler de protocole lorsqu'un homme, une femme meurt de souffrances psychiques par manque de place, d'écoute, de présence humaine. Si la psychiatrie publique meurt, c'est tout un pan de la société qui mourra avec elle. C'est vous, c'est nous. Alors, je précise que c'est un texte écrit par des soignants, hein, bien sûr. Et donc, effectivement, la psychiatrie actuelle souffre d'absence, de diminution des subventions, de leur financement, réduction des lits, réduction du personnel. En sont les conséquences. Et donc, ça nous interdirait, nous, de critiquer l'institution même, puisque là, il faut quand même, là, la situation est tellement critique, il faut continuer une éloge défense de la psychiatrie. Bien, je précise que nous, c'est pas notre cas, mais par contre, là, c'est ce que l'on peut lire ici, c'est qu'il subsiste à travers ce manifeste des aboyeurs de voix une éloge défense de la psychiatrie. C'était juste une précision. Je poursuis le texte. En 2024, la psychiatrie publique doit devenir une mission prioritaire d'intérêt général. Le collectif Les Aboyeurs de Voix a souhaité, par cette lettre ouverte, se faire porte-voix de tous ceux et celles qui sont concernés de près ou de loin par les soins et ou les troubles psychiques. Patients, soignants, familles de patients, tous pour une même voix, réanimons la psychiatrie publique. Encore une métaphore médicale. La psychiatrie à bras-le-corps. Depuis presque 20 ans de pratique soignante en psychiatrie, nous assistons à la déliquescence des conditions d'accès aux soins en santé mentale. D'une période faste des soins psychiques, allant des années 70 aux années 90, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par faste, mais je passe. Nous avons sombré à nouveau dans la psychiatrie sécuritaire dès le début des années 2000. Merci la loi Sarkozy, à l'instar du grand renfermement et de la psychiatrie asilaire d'antan. Alors que nous demandons des moyens humains en effectif supplémentaire, des ouvertures de lits, des structures d'accueil adaptées à une population, à une société qui évolue, qui se précarise, et des pathologies qui apparaissent plus complexes en miroir du contexte social, l'État, le gouvernement, les directeurs des différentes institutions, ARS, hôpitaux, etc. nous répondent « adaptation de matériel concentrationnaire, protocole robotisant et déshumanisant, mur ou grille plus haut ». Chaque jour, nous crions nos alertes aux oreilles d'un management qui ne sait qu'appliquer mépris et violences institutionnelles. Chaque jour, la gangrène de ce système de soins gagne du terrain et la psychiatrie publique se retrouve amputée un peu plus. Elle est aujourd'hui en appui sur des moignons. On ne tarit pas de métaphores, toujours médicales. Après la haine, la colère, la tristesse, l'abattement face au déni de nos dirigeants, est venu le temps de la révolte par la libération de la parole. Car la psychiatrie est une mission d'intérêt public, elle touche ou peut toucher chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous plaignons ces personnes qui tirent les ficelles de budgets irréels, qui détournent le regard, car eux ne connaissent pas l'essence même de notre métier, la psychiatrie à échelle humaine. Car être soignant en psychiatrie publique, c'est accompagner cette femme atteinte d'absence abyssale et de mutisme pour qui psychiatres et neurologues n'arrivent pas à poser de diagnostic. Vider son appartement que des tonnes de bouteilles de vin vide encombrent chaque pièce et dont elle n'a aucun souvenir, et faire que ce soit le moins violent possible. C'est en salle de réveil post-ECT, électroconvulsivothérapie, être de soignant à côté de cette femme qui souffre d'une psychose infantile et qui meurt de peur à l'idée de ses soins. Elle lui chantait à deux voix le tourbillon de la vie, car c'est la seule chanson qui l'apaise, et que sa mère lui chante encore lors des crises d'angoisse. Voir son visage encore endormi se détendre et la voir sourire en ouvrant les yeux. Alors nous ne faisons pas non plus l'éloge ici... J'ouvre une parenthèse, l'électroconvulsivothérapie, bien sûr. Je referme la parenthèse. C'est être soignant en psychiatrie publique, c'est amener au restaurant une à deux fois par an, à défaut de plus, cet homme atteint de schizophrénie, ancien patient du MD, qui n'a d'autre domicile que l'hôpital psychiatrique depuis bien trop d'années. Manger une vraie entrecôte avec de vraies frites, prendre un vrai café en terrasse et regarder passer la vie côte à côte. C'est prendre le temps de sortir du service pour rejoindre cette mère âgée et malade venue voir son fils atteint de schizophrénie résistante et polytoxicomane pour qui les voisins ont signé une pétition et qui va être expulsé de son appartement dans un mois, s'asseoir à côté d'elle et trouver les bons mots ou tout simplement écouter, accueillir ses larmes, sa souffrance, sa peur et son sentiment d'injustice et l'entendre vraiment. C'est quitter sa blouse blanche et accompagner cette patiente que son délire protège de la violence, de la réalité, aux obsèques de son père. Mais ce n'est pas son père, nous citons, c'est l'autre, le fou, le faux, le clone, son jumeau robotique. Et faire en sorte qu'elle tienne debout. Être soignant en psychiatrie, c'est sortir du service quelques heures avec ce jeune patient atteint de troubles de l'humeur pour aller nourrir son chat qui attend des petits et qui garde l'appartement en attendant qu'il rentre. Le regarder retrouver la joie de s'occuper de la seule personne qui soit encore dans sa vie. C'est oublier les protocoles de soins et mettre un clip de Snoop Dogg à ce patient schizophrène pour qu'il accepte sa prise de sang hebdomadaire. Chanter le refrain avec lui car il est trop terrifié à l'idée qu'on lui vole tout son sang. C'est prendre le temps le soir du 24 décembre de chaque année de décorer les tables du réfectoire et d'essayer de repousser un peu la tristesse qui s'empare encore plus ce jour-là de ceux que la vie a trop abîmés. C'est être là aussi aux anniversaires où personne ne vient, personne ne téléphone et amener comme seul cadeau l'humanité, la sincérité que l'on peut. C'est prêter son parapluie à ce patient guidé par des voies injonctives qui l'amènent en voyage pathologique trop souvent. Le lui prêter comme un bâton relais jusqu'à Paris, la file d'attente devant la préfecture sous la pluie pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour. Et le voir revenir souriant avec son papier et me rendre le bâton relais. C'est s'asseoir au coin d'un lit et serrer cette main tremblante en chambre d'iso, accueillir la peur et les confidences sur une enfance fracassée, entre la douche et la clope de 10 heures, se taire, s'asseoir et écouter vraiment, accepter que cet homme redevienne cet enfant de 5 ans qui a besoin que des bras le serrent l'espace d'un instant et dire merde à la distance soignante. C'est y aller par étapes, sans brutalité, avec cette femme âgée, incurique, en proie à la paranoïa. Au fil des semaines, lui faire accepter d'abord un bain de pied dans une bassine, parler de sa vie, de tout, de rien, pour l'amener progressivement à accepter des soins corporels plus tard. Qu'elle vous remercie en vous tirant le tarot divinatoire, vous prédisant amour et voyage loin de l'hôpital. C'est au détour d'un couloir, dans le jardin, à l'infirmerie, à l'espace fumeur, sur le pas d'une chambre, à l'arrière d'une ambulance, dans la salle d'attente du juge des libertés et de la détention, dans le sas d'accueil des urgences, dans une salle d'atelier thérapeutique, au réfectoire, un regard, un soupir, des larmes, des cris, des insultes, des rires aussi, des confidences, des blagues, des clubs partagés, des madeleines glanées, du lien humain laborieusement tissé heure par heure, jour après jour, mois après mois, de la confiance, du partage, de la connaissance de l'autre, de la négociation, de l'acceptation, des ruptures de soins, de contacts, et puis tout recommencer et ne pas perdre espoir. C'est aussi poser sa blouse le soir au vestiaire et ne pas y laisser toutes ses âmes, tous ses parcours de vie et ses émotions. Rentrer chez soi et raconter à ses amis, sa compagne, son conjoint, ses enfants ou son chat. Les échecs brûlants qui nous tordent le bide, les peines et les douleurs partagées, la violence souvent, mais aussi les petites victoires qui étincellent et qui raniment toutes celles qui font qu'on a envie d'y retourner chaque matin et de recommencer. Nous, soignants de la psychiatrie publique, nous sommes dans le côte à côte de ces hommes, de ces femmes qu'on appelle patients. Nous y sommes à chaque instant du jour ou de la nuit. Nous tentons d'apaiser les angoisses des aurores et de dissiper les démons des crépuscules. Nous ne pouvons plus entendre parler de protocole lorsqu'un homme, une femme meurt de souffrances psychiques, se suicide dans une chambre qui n'en est pas une, fugue pour se jeter sous un train, se fait agresser par un autre patient par manque de place, d'écoute, de présence humaine. Si la psychiatrie publique meurt, c'est tout un pan de la société qui mourra avec elle, c'est vous, c'est nous. Les aboyeurs de voix. Voilà, donc je lis ce... Oui, c'est un manifeste intitulé « La psychiatrie à bras le corps » pour donc qui dénonce cette déliquescence peut-être de la psychiatrie publique. Il est vrai que nous sommes dans une société où la privatisation des services est la route principale du pouvoir. Alors, que pouvons-nous vous proposer encore? Eh bien, d'abord encore une pause avec 13. 13 aura.
Par milliers, très loin des lieux de fête, contrat social résilié dans les HP, parquet les bêtes, bouche sèche, dissociée, doigts qui tremblent, morale d'assiette, laisser s'empiler leurs dossiers dans les tranchées de toutes nos têtes, tomber les cachets dans le gosier, déguster en continu, conso qui dort sans rassasier, cicatrice sur torse nu, placer les psychiatres au brasier, balayer l'âtre de leur arrière-goût, tenir nos trous, s'extasier jusqu'au tréfonds de nos égouts. Qu'ils nous gorgent en camisole, que les nuisibles boivent le bouillon, qu'ils nous isolent, qu'ils nous volent, qu'ils mettent nos rats au courbouillon. Je suis désolée, ça va sans dire qu'il soit trop tard pour disserter. Si les rats ont quitté le navire, c'est qu'il aurait fallu le déserter. On arrive par milliers, radars reliés, on dévale par milliers, aux dérivés c'est familier. On arrive par milliers, radars reliés, on dévale par milliers aux dérivés. Si j'ai de la grâce et de l'aura, c'est grâce au rat. Si j'ai de l'adresse et de l'odorat, c'est grâce au rat. Si j'ai de l'audace et de la graisse, c'est grâce au rat. Si tu m'oppresses, si tu m'agresses, ça se saura. Appréciez toute la famille, montre les voies inusitées. Dans les brisures de vos bastilles, on fait mesure de salubrité. Les étiquettes loin des casiers, on s'organise en porte ouverte. Solidaire comme les bousiers dans les boulettes, braillez l'alerte.
Ah oui, ben, ça s'est interrompu d'un seul coup. C'est pas grave. On va continuer avec un article. Un article du Forum médical suisse. Conséquences neurologiques rares. Pensez à des causes iatrogènes. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Mais c'est toujours dans un contexte de critique de la psychiatrie, puisque nous sommes à l'émission L'Entonnoir. Et c'est sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste. Alors, c'est un article de Raphaël Christophe Windlin et de Frau Carole Elodie Aubert. Alors c'est un article assez ancien, publié le 19 octobre 2022. Alors, contexte. Les symptômes associés aux médicaments doivent toujours faire partie du diagnostic différentiel, mais sont toutefois souvent oubliés, ce qui peut entraîner une cascade de prescriptions et une polypharmacie inadaptée. La différenciation entre les modifications principalement dues à la maladie et les modifications iatrogènes d'un tableau clinique est parfois difficile, mais doit être envisagée en cas de survenue après modification de la médication. Donc, bien, il semble que l'entonnoir d'aujourd'hui s'adresse à un public de soignants. Et, dans ce cas, bienvenue. Écoutons ce rapport. Cet objet d'étude qui est les causes iatrogènes des maladies. Le transfert de la patiente âgée de 58 ans vers l'hôpital somatique a été effectué depuis la clinique psychiatrique où elle était traitée en raison d'une dépression sévère chronicisée en présence d'un trouble schizoaffectif. La patiente s'y trouvait dans un état psychique fluctuant depuis environ 6 semaines, présentant parfois des épisodes d'état confusionnel et de mutisme. Depuis une semaine, elle nécessitait davantage de soins en raison de variations de la vigilance, d'une prise irrégulière de nourriture et de médicaments, ainsi que d'une incontinence urinaire nouvellement survenue. À 2 reprises, son agitation a rendu impossible la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique, IRM, destinée à exclure une lésion organique cérébrale, ce qui a entraîné le transfert. Le traitement préexistant par quiétapine et clozapine avait été augmenté à la clinique psychiatrique à 150 mg /D, je ne sais pas ce que c'est, et 300 mg /D, donc respectivement pour la quiétapine et la clozapine, et complété par la fluoxamine 50 mg, l'amisulpride 800 mg et le lorazepam 1,5 mg. Seule une anamnèse limitée a pu être recueillie à l'admission en raison de la perte de vigilance. Outre des douleurs diffuses dans la jambe droite et des troubles mictionnels non spécifiques, aucun autre symptôme n'a pu être enregistré. Examen clinique et résultats. Lors de l'admission, la patiente était somnolente, néanmoins réveillable à tout moment, orientée sur le plan local et situationnel, mais désorientée temporellement, stable au niveau cardio-respiratoire, pression artérielle 120-58 mmHg, pouls 97 par minute, fréquence respiratoire 19 par minute, saturation en oxygène 4 SPO2 96%, affébrile et dans un état général réduit. Les statuts cardiaques, pulmonaires et abdominales étaient exempts d'anomalies. L'examen neurologique a été rendu difficile par la capacité réduite de coopération de la patiente. Les pupilles étaient isochores et promptement réactives à la lumière, les preuves de Douanet dissymétriques. En présence d'un score de 14 sur la Glasgow Coma Scale, ont été observés un coin de la bouche tombant à droite et une allodynie dans toute la jambe droite. Les analyses biochimiques ont révélé des valeurs de glucose et d'électrolytes normales. Ont été observés un taux de lactate déshydrogénase accru à raison de 297 U/I, tout comme celui d'aspartate aminotransférase de 117 U par alors ça doit être L peut-être, par litre peut-être, en présence de valeurs normales d'alanine aminotransférase et de cholestase ainsi qu'une leucocyte de 11,9 g/L et un taux de protéines C réactives CRP de 23 mg/L. L'électrocardiogramme était normal à l'exception d'un intervalle QTC légèrement prolongé, 450 ms. En présence de symptômes non spécifiques et d'une perte de vigilance, des cultures sanguines et urinaires ainsi qu'un frottis SARS-CoV-2 ont été prélevés, qui étaient tous négatifs. En raison de la perte intermittente croissante de vigilance, la patiente a été hospitalisée pour des examens complémentaires et un traitement. Le lendemain, elle affichait une hausse de température à 38,1 degrés. Elle présentait un état rigide et akinétique sans modification de la perte de vigilance. L'ensemble des réflexes était faiblement déclenchable. En présence d'un taux accru d'ASAT et d'un taux normal d'ALAT, la créatine kinase CK a été mesurée, indiquant une valeur nettement accrue de 2440 U par L. L'IRM crânienne a été réalisée sous anesthésie en raison des épisodes d'agitation mentionnés et n'a montré aucune pathologie organique cérébrale ni vasculaire. La ponction lombaire était normale. Diagnostic. La patiente était sous traitement antipsychotique. Elle avait précédemment fait preuve d'agitation et présentait actuellement somnolence, mutisme, désorientation ainsi qu'une rigidité accompagnée d'akinésie, une température supérieure à 38 degrés, une tachycardie et depuis peu une incontinence urinaire. Elle remplissait ainsi tous les critères cliniques d'un syndrome malin des neuroleptiques, SMN, bien que la présence de deux de ces critères ait déjà suffi pour une suspicion. Traitement et évolution. La totalité du traitement médicamenteux a d'abord été interrompue et la patiente transférée pour observation à l'unité de soins intermédiaires où une administration intraveineuse de liquide a été effectuée. Le taux de CK a été ensuite régressé et la vigilance de la patiente s'est améliorée. Après une période d'observation sans anomalie, la patiente affaiblie et stable sur le plan cardio-respiratoire et neurologique a été retransféré à l'unité normale. La leucocytose a régressé spontanément. En conséquence de l'arrêt du traitement antipsychotique, la patiente était de plus en plus agitée et sous monothérapie de benzodiazépine, ne pouvant plus être gérée à l'unité de médecine interne, tandis qu'elle sollicitait son retour à la clinique psychiatrique. Après consultation psychiatrique, elle a été évaluée comme étant orientée, non psychotique, légèrement ralentie en termes d'entrain et de psychomotricité, légèrement déprimée sur le plan affectif, mais pas dangereuse pour elle-même ni autrui, et a été retransférée à la clinique psychiatrique pour suite de prise en charge. Le SMN, donc le syndrome malin neuroleptique, est un tableau clinique neurologique plutôt rare, susceptible de développer de multiples complications. Les premiers rapports de cas proviennent des années 1960, la mortalité n'ayant cessé de diminuer depuis, ce qui est dû à l'augmentation de l'évocation du diagnostic permettant de débuter le traitement plus tôt. Le tableau clinique inclut quatre signes principaux, anomalie du comportement, troubles moteurs, hyperthermie et instabilité autonome. L'établissement du diagnostic a lieu au vu d'une suspicion clinique élevée avec médication correspondante après exclusion d'autres causes. Il existe un consensus international selon lequel les symptômes caractéristiques d'un SMN, syndrome malin neuroleptique, peuvent être évalués au moyen d'un score pas encore validé. Du point de vue clinique, un SMN est à considérer en présence d'au moins 2 des 4 signes cliniques mentionnés. Il survient souvent dans les 2 semaines suivant l'augmentation du dosage ou l'ajout de médicaments déclencheurs, avec une manifestation de la symptomatique pendant 1 à 3 jours. De manière générale, il peut toutefois se développer à n'importe quel moment du traitement. Dans le cas décrit, le taux de clozapine était abaissé 7 jours avant le transfert. La dose a ensuite été augmentée. Une nouvelle mesure aurait permis une meilleure représentation. Toutefois, la symptomatique et les résultats de la patiente concordaient avec le tableau clinique typique d'un SMN. Voilà, et donc les substances susceptibles de déclencher un syndrome malin des neuroleptiques sont les suivants. Les antipsychotiques, parmi les antipsychotiques, l'aripiprazole, la chlorpromazine, la clozapine, la flufénazine, l'haloperidol, l'olanzapine, le paliperidone, le perphénazine, la quetiapine, risperidone, thioridazine, ziprasidone, amisulpride et zotépine. Antiémétiques, domperidone, droperidol, métoclopramide, prochlorperazine, prométhazine. Liste non exhaustive. En principe, toute substance antipsychotique peut contribuer au développement d'un SMN. Voilà, je ne lis pas tout l'article. Et c'est donc... ce texte vient du Forum médical suisse. Alors si le syndrome malin des neuroleptiques est assez rare, on n'oublie pas que les neuroleptiques causent aussi d'autres problèmes de santé sur les personnes qui suivent le traitement. Voilà, alors pour finir, on va annoncer un événement. Un événement qui a lieu à Montreuil. Donc c'est une journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques à la mémoire de Charlotte et Childéric. Donc ça sera dans 3 jours, le 13 avril, à partir de 14h à l'AERI, 57 rue Étienne Marcel, à Montreuil, Croix-de-Chavaux, mais sortie marché couvert. Et donc il s'agit d'une lutte, une journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques à la mémoire de Charlotte et Childéric. Journée de lutte contre l'enfermement. J'ai déjà dit. Le 13 avril, donc ça aussi je l'ai déjà dit, témoignages, ateliers, table de presse, cantine à prix libre et concerts. Charlotte Piazza est morte à 24 ans après des maltraitances en prison et à l'hôpital psychiatrique. Childéric est mort à 29 ans en raison des mauvais traitements et de la contention physique imposée par l'hôpital psychiatrique. À la mémoire de Charlotte, de Childéric et de toutes les autres victimes, réunissons-nous pour dénoncer l'enfermement et les violences psychiatriques et pour prendre collectivement soin de nous, familles proches de victimes ou survivants et survivantes. Charlotte Piazza a été tuée le 23 mai 2021 à 24 ans. Charlotte a été empoisonnée en unité fermée d'asile psychiatrique après 3 ans d'enfermement et de maltraitance carcérale. C'est pendant son incarcération, à force d'acharnement de l'administration pénitentiaire et judiciaire, de violence et de mitards, qu'elle décompense une schizophrénie. En prison, aucun soin ne lui est apporté, bien au contraire. À sa sortie, aucun psychiatre ne prend sa souffrance au sérieux, si bien qu'après une crise, elle est condamnée par la préfecture de police à un enfermement psychiatrique sous contrainte. Pour lui autoriser sa sortie, l'asile lui impose une injection au Xéplion, un produit connu pour sa dangerosité, et le supplice physique qu'il inflige. Il lui injecte ce produit sans lui donner d'antidouleur, sans nous expliquer les risques. À la permission suivante, Charlotte met fin à ses jours. Sa vie lui a été volée par 4 ans d'acharnement judiciaire, carcéral et psychiatrique. Tous ces lieux meurtriers doivent fermer. Childéric, lui, est mort à l'âge de 29 ans. Ce 10 août 2010, il a été assassiné dans l'enceinte d'un hôpital psychiatrique alors qu'il se trouvait en unité fermée et qu'il était venu de son plein gré 2 jours auparavant. Il n'a pas survécu à une nuit de mauvais traitements et de contentions physiques. Il est mort attaché, s'étouffant dans son propre vomi, ne pouvant se libérer ni même se mettre sur le côté. Sa famille n'apprendra sa mort que 2 jours plus tard. L'hôpital, par la voix de la police, leur dira qu'il serait arrivé agité et qu'il aurait été dans l'obligation de le mettre en unité fermée, qu'ils auraient été dans l'obligation de le mettre en unité fermée à l'isolement. De là, il se serait montré agressif envers les soignants et il aurait nécessité d'être attaché pendant son sommeil, jusqu'à en mourir. Tout cela n'est que supposition, car il n'y a aujourd'hui que la version de l'hôpital, Childéric n'étant plus là pour donner la sienne. Revient l'éternelle question de sa mère, comment quelqu'un qui viendrait se faire interner de lui-même serait agressif et non coopératif envers les soignants ? Il avait cette envie et cette volonté de réussir à vivre avec cette maladie et surtout de s'en sortir. La dernière fois que Childéric a été vu, qu'on lui a parlé et que l'on a mangé avec lui, c'est le jour où il est parti à l'hôpital. Il était heureux et confiant. L'hôpital psychiatrique et les unités d'enfermement l'ont tué à petit feu, lui et ses rêves, d'abord avec le traitement lourd qui lui a fait prendre beaucoup de poids et développer d'autres pathologies, et puis finalement dans l'enceinte de l'hôpital où il a passé une bonne partie de sa jeune vie d'adulte jusqu'à sa mort. C'est aussi la manière dont cette société blanche et bourgeoise perçoit les corps noirs et racisés qui l'a tué. Lui, cet homme noir et fort qui devait certainement leur faire peur alors qu'il était d'une douceur et gentillesse. Tous ces lieux d'enfermement nécessitent de repenser leur manière de voir et d'aborder les corps et la psychologie des personnes racisées. L'enfermement carcéral et l'enfermement psychiatrique sont deux rouages mortifères d'un même système bourgeois raciste et sexiste. Derrière les murs, les matons et matonnes et les psychiatres tuent brutalement ou à petit feu nos proches dont les voix sont censurées. La prison condamne celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas blancs ou blanches et qui sont pauvres et qui dérangent l'ordre établi ou l'ordre de genre. Elle s'acharne, brutalise et humilie les personnes sans papier, les travailleuses du sexe, les corps racisés, les précaires, les résistants et leurs familles. Les unités fermées sont des prisons qui ne disent pas leur nom, qui infligent à leurs patients et patientes traités comme autant de dangers pour la société bourgeoise, la prise de produits dangereux sans leur consentement. Plusieurs de ces produits qui ont causé la mort de détenus sont en réalité des poisons qui tuent en silence à l'ombre des murs de ces institutions. Etc. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire, mais nous voulons faire soin collectivement, autrement en commun, témoigner, s'outiller, agir pour que cela cesse. Le 13 avril, nous appelons à nous réunir pour dénoncer toutes ces violences à la mémoire des victimes d'enfermement et de violences psy pour prendre soin de nous, des survivants et des proches. Donc, journée de lutte contre l'enfermement et les violences psychiatriques. C'est le 13 avril à partir de 14h à l'AERI, 57 rue Étienne Marcel, Montreuil. Une autre annonce, vite fait, là on déborde un petit peu, hein, on va avoir l'émission Un rayon de soleil dans très peu de minutes. Une annonce de ce qui va se passer à Publico, 145 rue Amelot, la librairie du monde libertaire, dimanche 21 avril, à partir de 16h, donc à l'invitation du groupe libertaire d'Ivry et de l'émission L'Entonnoir. L'émission tous les mercredis de 9h30 à 10h30 sur Radio Libertaire. Et ce sera une discussion autour du livre de Gérard Hoff, Je ne serai plus psychiatre. Le minimum que puisse faire un psychiatre est de libérer le délire sous-jacent qui l'a attiré vers cette profession morbide et de voyeur, écrivait Gérard Hoff. D'abord interne en psychiatrie après 1968 à Lyon, Gérard Hoff sera radié par le conseil de discipline. Il cofonde le groupe Information Asile en 1972, mais aussi le Front homosexuel d'action révolutionnaire en 1971, plastique la centrale nucléaire en construction de Fessenheim en 1975. Inspiré par le groupe de patients révolutionnaires de Heidelberg en Allemagne, le SPK, Gérard Roff essaie de se situer entre le monde des soignants et le monde des soignés, tentative qui le mène à une remise en question de plus en plus radicale de l'institution psychiatrique. Loin de chercher une meilleure manière de soigner la folie, entre guillemets soigner et entre guillemets folie, il en vient à travers sa pratique personnelle à tenter de libérer le délire collectif contenu dans les murs de l'asile. La dimension du combat qui se joue entre les « entre guillemets fous » et les « entre guillemets normaux » dépasse largement le problème de la « entre guillemets maladie ». Donc ce sera une discussion autour de ce livre « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Roff. Donc un livre... sorti dans les années 70 et qui est réédité aujourd'hui, qu'on peut trouver d'ailleurs en librairie, et en l'occurrence dans les meilleures librairies comme Publico, donc Publico 145 rue Amelot, dans le 11e métro Oberkampf, au fil du Calvaire, et où aura lieu donc cet après-midi autour de Je ne serai plus psychiatre, dimanche 21 avril. À 16h. Et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous allons vous laisser avec, comme je l'annonçais il y a un instant, un rayon de soleil.